journal Marion Lourd, bonjour.
Bonjour Camille, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver dans ce 13-14, une heure d'information à la mi-journée, à la une aujourd'hui. Est-ce une obligation qui ne dit pas son nom? Les annonces du président hier provoquent une ruée vers l'injection anti-Covid. Une certaine colère aussi, témoignage dans un centre de vaccination dès le début de ce journal. Vaccin ou test anti-Covid récent obligatoire dans les lieux culturels le 21 juillet, dans presque tous les lieux publics début août. Qui va garder les enfants de plus de 12 ans? Colonies de vacances, voyage en train, les parents s'interrogent. Le gouvernement temporise par la voix de Bruno Le Maire.
Étant moi-même père de 4 enfants, je sais à quel point l'organisation des vacances d'été, c'est extrêmement compliqué. Donc soyons souples et compréhensifs pour les adolescents et les enfants de plus de 12 ans.
Dans ce journal, des points très pratiques sur ces mesures et leurs conséquences sur nos ados, sur nos vacances, transports, festivals, mode d'emploi à venir. C'est un petit caillou pour Google, mais un grand symbole pour la presse. L'autorité de la concurrence inflige 500 millions d'euros d'amende aux géants du net pour n'avoir pas assez rémunéré les éditeurs de presse. Dans ce journal aussi, le procureur général de la Cour de cassation, François Molins, pris dans l'affaire Dupond-Moretti. Ne dansez pas maintenant, les balles des pompiers sur la sellette en temps d'épidémie. Les cyclistes du Tour de France, eux, sur leur selle. Pour 169 km dans les Pyrénées, nous y serons. Et puis, dans la deuxième demi-heure du 13-14, des détenus victimes de violences, privés de soins, couchés à même le sol dans des cellules infestées de cafards et de rats. Ça se passe chez nous, à la maison d'arrêt de Toulouse-Cesse. La contrôleuse des prisons dénonce la situation. Dominique Simoneau sera notre invitée à 13h30. Vos questions sur la situation dans les prisons françaises en ces temps de pandémie. 01 45 24 7000 et sur l'appli France Inter. Toute autre ambiance, bien sûr, avec notre chronique cinéma, la météo cannoise, et dans C'est une chanson, chose promise, chose due, on écoutera du Gilbert Bécaud, de quoi adoucir notre été pourri sur le plan météo.
Il fait pas trop chaud, on transpire pas.
Voilà. C'est l'avantage.
Exactement. On a le soleil dans le cœur.
Voilà. Reportage à venir en Normandie.
France Inter. Le 13-14.
Après les annonces présidentielles hier soir, la ruée pour se faire piquer. La plateforme Doctolib de prise de rendez-vous n'a pas résisté hier soir. Elle est toujours prise d'assaut ce matin. Le site internet VitmaDose parle d'une activité 10 fois supérieure à la normale. Affluence aussi devant les centres de vaccination, comme l'a constaté Mathilde Vinceneux à Marseille pour Inter.
Devant les grilles, ils sont une centaine à se présenter sans rendez-vous. Sabrina patiente avec son fils de 12 ans. Elle se sent contrainte et elle est en colère.
On attend depuis 7 heures ce matin pour être vaccinée, pour avoir la première injection, sachant que notre été est foutu. Je suis contre pour mon fils qui a 12 ans et j'étais contre pour moi parce qu'on n'a pas de recul sur ce vaccin et ils nous prennent en otage. On n'a plus le choix.
À côté d'elle, Nabil, lui, a passé plus d'une heure et demie sur les plateformes hier soir. Il n'a pas réussi à obtenir de créneau. Alors il attend sans comprendre lui non plus les annonces du président.
Je ne sais pas, franchement, il nous a pris tout en traître. Au dernier moment, comme ça, les gens ils ont pris leur billet pour partir en voyage. Et d'un coup, on était obligé d'annuler, faire un deuxième vaccin. D'ici 15 jours, ça serait trop tard. Par exemple, moi, je pars début août. Malheureusement, je suis obligé de tout annuler.
Bonjour à toutes et à tous.
Donc, sans rendez-vous, hein, vous préparez vos cartes vitales, vos pièces d'identité et votre plus beau sourire. Allez, go.
Les marins-pompiers assurent qu'il y a des doses et du personnel en plus pour faire face à l'affluence. Une troisième ligne de vaccination pourrait être ouverte en cas de besoin dans un gymnase à côté. Marseille, Mathilde Vinceneux, France Inter.
Une foule de Français qui répond à l'appel de la vaccination, histoire d'éviter le test PCR tous les deux jours pour mener une vie normale, et ce d'autant plus que ce test sera payant à l'automne. Mais ces Français vont-ils trouver rendez-vous à leurs pieds? A priori, les doses et les créneaux sont là, rassure Stanislas Nioxchateau, le fondateur du site Doctolib.
Est-ce qu'il y a encore des créneaux disponibles? Oui, c'était 100 000 rendez-vous qui étaient disponibles ce matin. Après, ce chiffre, il évolue de minute en minute. Pourquoi? Parce que les centres de vaccination, ils mettent à jour leurs créneaux de disponibilité, ils réouvrent des plages de rendez-vous. On travaille bien sûr étroitement avec les villes, les régions. On a augmenté les capacités technologiques de Doctolib, ce qui a permis de faire que 926 000 Français ont pris leurs deux rendez-vous hier soir, 350 000 depuis ce matin. En moyenne, il y a 11 jours de délai, ce qui fait qu'en fait, la majorité des Français qui ont pris rendez-vous hier, ils seront vaccinés intégralement entre la mi-août et la fin août. Très clairement, on a des stocks de vaccins. Le président a communiqué hier sur 9 millions de stocks de vaccins, notamment Pfizer et Moderna. Et donc, est-ce qu'il y a des risques de pénurie de stocks? J'ai l'impression que non. Et donc, on est tous mobilisés, les centres, les villes, les régions, les soignants et nous, pour que tous les Français puissent accéder à la vaccination dans les prochains jours. Il y aura des rendez-vous qui vont s'ouvrir tous les heures et tous les jours.
Stanislas Niox-Château avec Véronique Julia pour France Inter. Alors, récapitulons rapidement les annonces d'Emmanuel Macron. Le pass sanitaire, preuve de vaccination ou test PCR récent sera obligatoire dès le 21 juillet pour tous les lieux de loisirs ou de culture rassemblant plus de 50 personnes. Début août, le sésame sera requis aussi pour les cafés, restaurants, centres commerciaux, hôpitaux, maisons de retraite et les voyages en train et en avion. Vaccin obligatoire, lui, pour tous les professionnels au contact de personnes fragiles avant la mi-septembre, sinon pas de salaire. Sauf que ce calendrier pose beaucoup de questions. On va tenter d'y répondre, notamment avec vous, Thibault Lefèvre. Bonjour.
Bonjour Marion.
Alors, question concernant les ados, les plus de 12 ans, très rares à être doublement vaccinés. Pourront-ils aller en colonie de vacances ou au restaurant cet été? Les parents sont nombreux à se demander ce qui va se passer.
Alors, moins de 3% des 12-17 ans sont totalement vaccinés. Ils sont un peu plus de 19% à avoir reçu leur première dose. Alors, prenons un cas pratique, Marion. Le cas d'un ou d'une jeune qui recevrait sa première dose aujourd'hui, le 13 juillet. Donc, il ou elle pourrait obtenir, dans le meilleur des cas, la seconde le 3 août, et son pass sanitaire serait donc valide 2 semaines plus tard, le 17 août, donc à quelques jours seulement de la rentrée scolaire. Les vacances se compliquent donc, comme pour la fille d'Olivier, 17 ans, tout juste vaccinée, mais quand même très embêtée.
Ma grande a prévu de faire ses premières vacances sans les parents, avec une copine qui, elle, n'est pas vaccinée. Et du coup, il faut se rabattre sur les tests PCR qu'il faut faire tous les 2 jours. Et quand on est mineur, comment on fait pour faire des tests PCR? Même avec la meilleure volonté du monde, on peut pas avoir le pass sanitaire pour partir en vacances cet été. C'est un peu ruiner les vacances de tous les Français, en fait.
Alors, question concrète, réponse concrète. Les ados non vaccinés qui ont une carte vitale et qui ont donc plus de 15 ans peuvent aller se faire tester sans leurs parents et donc bénéficier pendant 48 heures, si bien sûr le résultat est négatif, d'un pass sanitaire valide.
Et quand les ministres disent qu'on va assouplir, qu'il va y avoir une tolérance pour les adolescents, ça veut dire quoi?
Alors, la piste de travail à l'étude, c'est de raccourcir le délai d'obtention du pass sanitaire après la seconde dose. Ce délai est actuellement de 2 semaines. Selon le ministère de la Santé, Olivier Véran a déjà échangé ce matin avec le président du conseil scientifique Jean-François Delfraissy. Il doit aussi parler à Alain Fischer, le monsieur vaccin du gouvernement. Il promet une décision rapide. Seule certitude pour le moment, le pass sanitaire sera complètement effectif après le vote et la promulgation de la loi, pas avant début août, selon le ministère. Et c'est seulement à ce moment-là qu'il sera étendu au café, au restaurant, aux centres commerciaux et aux transports notamment.
Thibault Lefèvre, merci pour ces précisions utiles. On en saura peut-être un peu plus encore après le Conseil des ministres en cours. Conseil censé officialiser la date de la présidentielle l'an prochain, les 10 et 24 avril, mais où il sera évidemment largement question de la situation sanitaire. On continue le point pratique avec Philippe Lefèvre du service économie. Bonjour Philippe.
Bonjour Marion.
Passe sanitaire dans les transports dès début août. Concrètement, ça va se passer comment pour les voyageurs et pour le personnel?
Alors, sur le papier, c'est relativement simple. Pour ce qui est de l'avion, le pass vaccinal était déjà obligatoire depuis le 1er juillet pour les vols moyens et longs courriers. À partir du 1er août, il sera obligatoire également pour les vols intérieurs et ce sont les compagnies aériennes qui seront chargées de contrôler ces passeports. Pour le train, là encore, à partir du 1er août, le pass sera obligatoire dans les Intercités, les TGV, les Thalys, les Eurostar et les Lyria. Là, par contre, on ne sait pas encore où se feront les contrôles et qui contrôlera les voyageurs. Agents de la SNCF, police, police ferroviaire, on risque bien d'assister à de belles pagailles avant d'arriver sur les quais début août. Enfin, pour les cars, là aussi, le pass sera obligatoire à partir d'une certaine distance. Problème pour le moment, on ne connaît pas encore la distance minimale. Et pour les salariés comme les contrôleurs, eh bien, en théorie, tous ceux qui sont en contact devront avoir le pass sanitaire, mais ils ne seront pas forcément vaccinés. Non, ils pourraient devoir subir un test antigénique tous les 2 jours.
Alors, on a compris que le 1er août, c'est une date théorique qui est soumise à l'approbation de la loi. Ça sera en tout cas courant août avant la deuxième quinzaine d'août. Les contrôleurs, vous le disiez, contraints de présenter un pass sanitaire. Si on élargit, Philippe, à tous les lieux dont la fréquentation sera soumise à ce pass, est-ce que là, dans les centres commerciaux, dans les restaurants, les salariés seront aussi contraints de présenter un pass valide?
Oui, ça va être compliqué d'ici la fin du mois. C'est le délai imposé par le chef de l'État pour toutes les professions, sauf les professions de santé qui vont jusqu'au 15 septembre pour être vaccinées. Alors compliqué, pas pour des questions de volonté, mais d'abord pour une question de droit. En effet, un chef d'entreprise n'a pas la possibilité de vérifier si ses salariés sont vaccinés ou pas. Ensuite, si vous demandez à vos salariés de se faire vacciner, il faut compter 3 semaines entre les 2 doses, plus 2 semaines pour avoir le pass. Donc ce salarié ne peut en théorie pas être dans un magasin, dans une caisse, à l'accueil de visiteurs avant 5 semaines. C'est vrai pour les centres commerciaux, c'est vrai pour les parcs d'attractions notamment. Certains d'ailleurs envisagent même de fermer avant la fin de l'été. Seule solution, test PCR ou antigénique tous les 2 jours. C'est coûteux, et techniquement très difficile, notamment pour tous les lieux qui ne sont pas dans les grandes villes.
Et pas forcément très agréable. Les précisions de Philippe Lefebvre. Merci à vous. Encore faut-il donc pouvoir le faire respecter, ce pass. Et pour les restaurateurs, on le disait, qui ont rouvert depuis la mi-mai, c'est compliqué, pas facile de filtrer la clientèle. Olivier Delannoy est le patron du restaurant L'Alcide, près de la Grand Place de Lille. Et il préside le groupement national des indépendants dans le Nord.
Ça va nous obliger à mobiliser des personnes pour pouvoir faire ces contrôles, malheureusement, à l'entrée de nos établissements. Et je rappelle que c'est quand même pas notre métier. Nous sommes plutôt des endroits de convivialité plutôt que des endroits de restriction. Ça va aussi engendrer une problématique avec notre personnel, puisqu'il a été aussi annoncé hier soir que notre personnel devrait être vacciné. Demain, est-ce que nos salariés pourront venir travailler, même s'ils n'ont reçu qu'une seule dose, par exemple? Aujourd'hui, c'est encore un flou. Ça va encore représenter un coût. Et aujourd'hui, la situation compliquée de beaucoup de nos établissements ne pourront pas supporter ce coût. Ça va encore compliquer la situation économique de nos établissements.
Le restaurateur Olivier Delannoy, joint par Nicolas Joly pour France Bleu Nord, en Allemagne. Angela Merkel annonce il y a quelques minutes que l'Allemagne n'a pas l'intention de rendre la vaccination obligatoire. C'est la chancelière qui l'a annoncé ce matin, il y a donc quelques minutes. De nouvelles contraintes à venir en France, et pour quel effet? On verra, en tout cas. L'objectif, c'est de faire mentir, sans doute, ces prévisions publiées par l'Institut Pasteur aujourd'hui avec le variant Delta. Les experts estime que le scénario du pire pourrait aller jusqu'à 40 000 contaminations par jour au 1er août, 11 000 dans un scénario plus favorable, le tout donc sans mesurer l'effet des restrictions tout juste présentées. L'extension du pass sanitaire va-t-elle de fait créer deux catégories de citoyens, les vaccinés qui pourront vivre presque comme avant et les non-vaccinés obligés de se faire tester ou privés de restaurants, de cinéma, de sport, de loisirs? Ça fait partie des questions qui se posent aujourd'hui, car la mise en œuvre du pass doit se faire par la loi. Il faut donc vérifier que son application est conforme à la Constitution, comme le rappelle le juriste Nicolas Hervieux, spécialiste du droit des libertés, car il y a une différence entre le pass tel qu'il est utilisé aujourd'hui et la version envisagée pour le mois d'août.
Le pass sanitaire existait déjà et son principe a été validé par le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État. Mais son élargissement pose de nombreuses questions. D'abord sur la temporalité. Le fait que les personnes qui souhaitent se vacciner n'aient pas forcément l'opportunité de pouvoir être correctement et pleinement protégées avant au moins un mois et demi s'ils se vaccinent d'ores et déjà. L'autre difficulté de l'élargissement du pass sanitaire, c'est clairement le fait de savoir quelles sont les limites à cet élargissement et en particulier que des lieux de la vie quotidienne, comme les restaurants ou les bars, soient désormais touchés par cette restriction d'accès, alors que il n'en était pas ainsi auparavant, où c'était limité uniquement aux grands rassemblements. Et donc toute la question, c'est de savoir si l'extension du pass sanitaire, qui évidemment limite assez drastiquement la liberté d'aller et venir et la liberté d'accéder à un ensemble de commerces et d'activités quotidiennes, eh bien, est-ce que ça sera considéré comme proportionné eu égard à la menace sanitaire? Et en particulier, est-ce que l'exigence ainsi imposée n'est pas excessive?
Nicolas Hervieux, spécialiste du droit des libertés, joint par Ariane Grissel pour France Inter. Et puis il y a ceux qui devraient avoir droit au pass sanitaire, mais qui n'arrivent pas à le faire reconnaître, à l'obtenir. Ces expatriés ou voyageurs qui ont reçu au moins une dose de vaccin à l'étranger ne parviennent pas à générer le QR code, ce code barre censé ouvrir les portes du monde d'après. Claude Guibal, il y a quand même quelques milliers de concernés.
Mathieu est parti étudier au Québec où il a été une fois testé positif au Covid, raison pour laquelle il n'a eu besoin que d'une seule dose de vaccin. Maintenant, c'est un problème.
J'ai passé vraiment longtemps à retrouver le laboratoire qui a analysé mon test pour pouvoir avoir le résultat de laboratoire. Et maintenant que j'ai ce résultat, en fait, impossible de faire reconnaître ce résultat pour l'échanger, on va dire, contre un QR code français, pour pouvoir le rentrer dans tout anti-Covid, pour pouvoir être tranquille cet été.
Pas de QR code. En attendant des directives officielles, certains médecins ont tenté de pallier ce problème en générant des certificats pour reconnaître le parcours vaccinal de ces Français de l'étranger. Mais le flou est total pour ce qui concerne les vaccins non reconnus au sein de l'Union européenne. Martine Vautringer-Didi est conseillère des Français à l'étranger. Elle représente la zone Tunisie-Libye.
Une grande majorité de nos compatriotes résidant hors de France ne sont pas vaccinés avec des vaccins reconnus par l'EAM, Agence européenne du médicament. Beaucoup sont vaccinés avec les vaccins chinois ou d'autres.
L'incompréhension est d'autant plus grande que les autorités consulaires ont poussé les expatriés français à se faire vacciner là où ils se trouvaient. Hors de l'Union européenne, il y aurait plus d'un million de Français vivant à l'étranger.
Et au cas où cela vous aurait échappé, il y avait aussi dans le discours du président hier soir une partie non-Covid, des perspectives de réforme pour les mois et les années à venir. La réforme de l'assurance chômage, par exemple, sera pleinement mise en œuvre dès le 1er octobre, assure Emmanuel Macron. Elle est pour l'heure suspendue par le Conseil d'État. La réforme des retraites sera engagée dès que les conditions sanitaires seront réunies. Elle ne sera jamais appliquée, réplique en réponse le chef de file des députés LR, Damien Abad. Selon lui, l'élan réformateur du chef de l'État s'est arrêté. Il parle d'impuissance et d'immobilisme. Ça n'empêche pas l'exécutif de revoir à la hausse ses prévisions de croissance pour l'année à 6% du produit intérieur brut. Une autre actualité marquante aujourd'hui parce qu'elle porte un coup à un géant du web, apparemment tout puissant. Google vient de se voir condamné à 500 millions d'euros d'amende par l'autorité française de la concurrence, du jamais vu. Selon le gendarme, l'entreprise n'aurait pas négocié de bonne foi avec les éditeurs de presse sur la question des droits voisins. Cet argent versé aux éditeurs pour la reprise de leur contenu. Pire, Google devra payer des astreintes jusqu'à 900 000 euros par jour de retard s'il ne présente pas des offres de rémunération aux éditeurs et aux agences. Alexandra Hakoun, comment expliquer cette sévérité ?
Un véritable coup de semonce pour Google. Avec cette amende, l'autorité de la concurrence estime en effet que le géant américain n'a pas négocié de bonne foi avec les éditeurs de presse français. Le gendarme de la concurrence le lui avait pourtant imposé en avril 2020. Google avait 3 mois pour trouver un accord sur la rémunération des contenus de presse qu'il utilise et avec lesquels il engrange de la publicité, ces fameux droits voisins, voisins des droits d'auteur. 5 mois plus tard, agacé de voir que rien n'avançait, les éditeurs et agences de presse avaient donc saisi l'autorité. Cette dernière explique aujourd'hui avoir voulu marquer la gravité des manquements du géant de l'Internet qui ne semble toujours pas accepter la loi sur les droits voisins. Bientôt 2 ans pourtant que la directive européenne dont ils sont issus a été transposée dans la législation française. Pour Google, qui se dit très déçu par cette décision, l'amende infligée ne reflète ni les efforts mis en place, ni la réalité de l'utilisation des contenus. Reste que la plateforme a désormais 2 mois pour négocier de vrais accords, sous peine de se voir infliger des astreintes pouvant aller jusqu'à 900 000 euros par jour de retard.
L'AFP et Google seraient proches d'arriver à un accord, assure-t-il aujourd'hui. Pour mieux comprendre encore ce conflit entre la France et un colosse de l'Internet mondial, rendez-vous sur notre site franceinter.fr. Ils sont des milliers de mineurs à se prostituer en France, des filles en majorité de toutes les catégories sociales, au point que le gouvernement annonce aujourd'hui un plan national de lutte. Margot Steve, il s'agit de mettre fin à une tendance lourde.
Les chiffres sont alarmants. Même s'il n'existe aucune statistique nationale sur le sujet, tous les acteurs interrogés parlent d'un phénomène en augmentation depuis 5 ans. Selon les associations, entre 7000 et 10000 enfants se prostituent aujourd'hui en France. Des filles, pour l'écrasante majorité, de plus en plus jeunes, entre 15 et 17 ans en moyenne, et issues de toutes les classes sociales. Un phénomène aussi en pleine mutation, fini ou presque la prostitution de rue. Tout se fait désormais sur Internet, le recrutement, comme la recherche de clients, ce qui rend les enquêtes et la détection des victimes plus compliquées. Le rapport préconise d'ailleurs de donner plus de moyens aux forces de l'ordre, notamment pour pouvoir enquêter sous pseudonyme via les réseaux sociaux. Le groupe de travail recommande aussi des campagnes de prévention pour les adolescents et les parents et une meilleure formation des professionnels de l'éducation nationale, des soignants et des éducateurs.
Des matelas au sol dans chaque cellule ou presque et 2 fois plus de détenus que de places. La contrôleuse générale des lieux de privation de liberté dénonce la surpopulation inacceptable de la maison d'arrêt de Toulouse, SEIS, d'autant plus inacceptable en période de pandémie. Sur cet établissement et la situation générale des prisons françaises, Dominique Simoneau est notre invité à 13h30. Vos questions 01 45 24 7000 et sur l'appli France Inter. Cet homme à la voix calme et aux cheveux gris, vous le connaissez pour l'avoir vu intervenir publiquement après les grands attentats qui ont marqué notre pays. Eh bien, François Molins, le procureur général de la Cour de cassation, est pris dans la tourmente de l'affaire Dupont-Moretti. Le ministre, accusé de prise illégale d'intérêt, d'avoir utilisé ses pouvoirs de ministre pour régler des conflits personnels avec des magistrats. C'est une information de nos confrères du Parisien. Le cabinet du garde des Sceaux aurait consulté François Molins à ce sujet. Or, c'est lui aussi, François Molins, qui a saisi la commission d'instruction de la Cour de justice de la République en janvier pour qu'une enquête soit ouverte après la plainte de syndicats de magistrats et de l'association Anticor. Pour la défense du garde des Sceaux, François Molins ne peut à la fois être dans cette affaire témoin et représentant de l'accusation. Une véritable impasse juridique alors qu'Éric Dupond-Moretti est convoqué vendredi devant la Cour de justice de la République. Explication Corinne Audouin.
À l'origine de cet imbroglio, il y a un coup de téléphone. En septembre 2020, l'inspection générale de la justice rend un rapport sur les agissements du parquet national financier. Le PNF avait épluché les fadettes de plusieurs avocats, dont celle d'Éric Dupond-Moretti, en marge de l'affaire Bismuth. Ce premier rapport conclut que les magistrats n'ont pas commis d'acte illégal. La directrice de cabinet du garde des Sceaux sollicite alors plusieurs avis. François Molins est consulté par téléphone pour savoir s'il est possible de saisir le Conseil supérieur de la magistrature, seul habilité à sanctionner des magistrats. Finalement, Éric Dupond-Moretti décide de demander une nouvelle enquête administrative à l'inspection générale de la justice, ce qui suscite la bronca des syndicats de magistrats. Alors François Molins a-t-il pesé dans cette décision? De source judiciaire, on indique que François Molins a été sollicité pour un avis technique en tant que président de la formation parquet au Conseil supérieur de la magistrature, mais cet avis, donné à titre institutionnel et non pas personnel, n'en fait pas pour autant un témoin dans l'enquête, ce que conteste donc la défense d'Éric Dupond-Moretti.
En bref, à l'étranger, cinquième jour d'émeutes et de violences en Afrique du Sud. Le bilan s'alourdit à 32 morts dans l'est du pays et à Johannesburg surtout. Les violences, pillages et incendies durent depuis vendredi et l'incarcération de l'ancien président Jacob Zuma, emprisonné pour outrage à la justice. 350 000 hectares partent en fumée dans l'ouest des États-Unis et du Canada, début de la saison des incendies. Elle pourrait battre le triste record de l'an dernier à cause de la vague de chaleur et de la sécheresse persistante. Chez les pompiers français, la tradition est douchée cette année. Vu le contexte épidémique, difficile de maintenir les traditionnels bals des pompiers dont les recettes sont souvent versées à des associations. Quelques villes font de la résistance, mais Sophie Potvin, beaucoup ont décidé d'annuler l'événement.
Paris, Lyon, Nantes ou encore Vannes, les annulations s'accumulent. Pas question pour les pompiers de prendre des risques. Frédéric Monchy, président du syndicat national des sapeurs-pompiers professionnels.
Beaucoup d'associations ne veulent pas porter la responsabilité d'un cluster dans un centre de secours ou dans un bal. Dans une année normale, effectivement, c'est une pause. Depuis deux ans, ça rend les choses un petit peu compliquées parce qu'effectivement, ça fait une charge supplémentaire.
Mais toutes ne sont pas de cet avis. À Menton, dans les Alpes-Maritimes, le bal rassemble pompiers et habitants depuis 6 ans. Et cette année, c'est la mairie qui a tenu à le maintenir. Anthony Pontès, président de l'Amicale des sapeurs-pompiers de Menton.
Pour nous, c'est un rendez-vous qui est important parce qu'avec la période qu'on vient de traverser et que tout le monde a traversé, pouvoir retrouver une pseudo-liberté dans un espace bien ventilé avec un peu de musique, je pense que ça peut être agréable pour tout le monde, y compris pour nous.
Le bal comme une pause avant la saison des incendies, mais aussi un moyen de voir les habitants dans un autre contexte.
Ce sont des relations qui sont différentes avec la population, puisque nous, on est toujours dans un cadre dit malheureux, ou en tout cas où les gens ont vraiment toujours besoin de nous. Donc là, c'est simplement profiter les uns des autres dans une ambiance festive.
Cranchaban près de La Rochelle, Aubrège-Villers à côté de Strasbourg ou encore Juvigny-sur-Orge en banlieue parisienne, toutes ces petites villes ont décidé de maintenir les festivités.
Baigneurs, soyez prudents, confinement et couvre-feu ont altéré notre forme. Piscine fermée, impossible d'entretenir son crawl ou d'apprendre à nager. Résultat, plus de 300 noyades le mois dernier, 79 mortels, c'est bien plus que d'habitude. Sur la plage abandonnée, coquillages et bottes fourrées, pas de chance pour les juilletistes, la météo n'est guère estivale. Exemple à Caen, 38 heures de soleil seulement depuis le début du mois, presque deux fois moins que d'habitude. Alors on se venge sur les plats d'hiver, nourriture consolatoire pour été morose, Nolwenn Lejeune.
Et ce n'est pas Catherine et Gilles serrés l'un contre l'autre dans le petit train touristique de Caen, emmitouflés dans leur doudoune, qui diront le contraire.
Le temps,
Comme à Saint-Dizier.
Fait pas beau comme à Saint-Dizier.
La Haute-Marne, ils en viennent. Christian et Patricia, eux, c'est Roanne, leur port d'attache. Alors là-bas, il pleut aussi, il sera sur Christian. Et pour le reste, eh bien, on fait avec.
Il fait pas trop chaud, on transpire pas.
Voilà. C'est l'avantage.
Exactement. On a le soleil dans le cœur, nous.
Voilà. Des touristes qui viennent chercher refuge dans sa boutique et surtout qui viennent chercher un imperméable. Jessie, on voit beaucoup en ce moment.
Ils n'étaient pas prêts au niveau de la météo. Eh bien, ils s'arrêtent pour nous prendre des kawaii et des rains. On attend d'ailleurs du réassort, là, les couleurs comme le kaki, le bleu marine et le noir.
Et c'est même jusqu'à la fromagerie qu'on ressent les effets de ce temps tous au festival. À la crèmerie des baratineurs, Justine a rangé burrata et mozza et ressorti.
De la raclette fumée, de la raclette nature et du morbier. C'est vrai que depuis le début de l'été, c'est plus les salades. On est reparti dans la fondue, la raclette. Même ceux qui viennent en vacances, on peut prêter des appareils. Donc ils se disent, bon bah voilà, il fait moche, il fait froid, on a ressorti les caouets, les bottes, donc on repart sur de la raclette.
Allez, un peu de patience, normalement l'horizon s'éclaircit en Normandie en fin de semaine.
Nolwenn Lejeune, France Bleu, Normandie. Même si la météo est capricieuse, une chose est sûre, on ne devrait pas avoir froid. Les cyclistes du Tour de France dans les Pyrénées aujourd'hui, le Slovène Tadej Pogacar toujours en tête. 16e étape, 169 km entre Pas-de-la-Case et Saint-Gaudens. Nous y sommes en direct avec Fanny Lechevestrier. Bonjour Fanny.
Bonjour Marion.
Quatre cols au programme, excusez du peu, et puis un départ quand même frisqué.
Oui, il fait pas plus de 8 degrés actuellement. Il faut dire que le pas de la case, c'est tout simplement le départ le plus haut de l'histoire du Tour de France. 2080 mètres d'altitude. Et il fait froid ici, un peu, comme partout en France, même si on est en Andorre, on a de la pluie, on pourrait encore en avoir à l'arrivée. Voilà, qui vont compliquer, la tâche des coureurs aujourd'hui sur 169 kilomètres après la journée de repos. Vous savez, il y a toujours quelques défaillances. C'est compliqué de remettre le vélo en route, surtout dans la dernière semaine. Et bien là, avec le froid, ça pourrait également entraîner quelques malades. Tout le monde s'est protégé. Là, dans la descente, les coureurs ont mis, pour certains, carrément des jambières et puis une couche supplémentaire en haut. Ils vont s'arrêter au kilomètre zéro pour enlever tout ça et pour lancer la course dans une dizaine de minutes.
En direct des Pyrénées sur le Tour de France, Fanny Lechevestrier avec les moyens techniques de Jean-André Giannichini pour France Inter. Et puis, grand merci à vous, chers auditeurs, vous êtes de plus en plus nombreux à écouter le 13-14 de France Inter avec Bruno Duvic, 1 600 000 en tout. Vous êtes 84 000 à nous avoir rejoints sur la saison 2020-2021. Ça fait beaucoup d'oreilles. Merci à vous donc, ça nous honore et nous oblige d'autant plus que l'audience du Média Radio, elle est au plus bas au printemps, bousculée par la crise sanitaire. Un œil sur le ciel de votre mardi.
La météo avec Pavillon France, la marque de la pêche française. Rendez-vous sur pavillonfrance.fr. Pavillon France, le jour de pêche est arrivé.
Bonjour Élodie Calac.
Bonjour à tous.
C'est encore bien mouillé.
Oui, des frontières du nord vers le bassin parisien, l'intérieur de la Normandie, jusqu'à la Garonne et à l'ouest du Massif central, on a des pluies qui persistent, parfois orageuses et marquées, surtout de la Touraine au Billy toulousain cet après-midi, et des Ardennes jusqu'à l'Alsace. D'ailleurs, le territoire de Belfort et l'Alsace restent en vigilance orange encore jusqu'en début d'après-midi. Ailleurs, on a quelques averses, alors ça s'éclaircit quand même sur la Bretagne, un petit peu près de la Manche aussi. En Méditerranée, c'est du soleil avec du vent fort jusqu'à 100 km à l'heure sur le nord de la Corse. L'ambiance est fraîche, souvent 16 à 23 degrés seulement, encore 26 à 31 en Méditerranée. Alors demain, on aura toujours des pluies dans l'Est, surtout sur le Nord-Est. Ailleurs, les averses vont devenir plus espacées. Le Nord-Ouest va retrouver quelques éclaircies. Et puis l'amélioration, elle est bien attendue pour le week-end, avec du soleil et des températures enfin plus estivales.
Élodie Calac de Météo France, merci à vous. Dans un instant, des rats, des cafards, des détritus et une surpopulation inacceptable à la maison d'arrêt de Toulouse-Seyss. La contrôleuse des lieux de privation de liberté lance l'alerte. Elle est notre invité. Vos questions à Dominique Simoneau, 01 45 24 7000 et sur l'application France Inter.
Et après 50 ans, on est plus libre.
Ah oui, on peut faire ce qui nous plaît, aller au musée, voyager, même s'épuiser sur la piste de danse.
Je sais pas danser, moi.
Et alors ? C'est pas ça qui va nous en empêcher.
Vous aussi, rencontrez des célibataires qui partagent vos centres d'intérêt sur Disons Demain.
France Inter présente
Sur les routes de la musique.
Un livre d'André Manoukian.
Savez-vous que l'homme préhistorique jouait de la flûte, que Bach défiait ses concurrents en battle ou que Nina Simone rêvait d'être une pianiste classique?
Une histoire de la musique pas comme les autres, pleine d'humour et d'anecdotes savoureuses pour éclairer les liens surprenants entre les grands courants musicaux.
Sur les routes de la musique
d'André Manoukian, une coédition France Inter.
France Inter aime
Bergman Island, le nouveau film de Mia Hansen-Love, en compétition officielle au Festival de Cannes.
I want to be with you.
I never mentioned you to my girlfriend, but she's jealous of you.
Un couple de cinéastes s'installe pour écrire sur l'île suédoise de Faro où vécut Bergman. À mesure que leurs scénarios respectifs avancent, la frontière entre la fiction et la réalité se brouille. Bergman Island, avec Vicky Krieps, Tim Roth, Mia Wasikowska et Anders Danielsson-Lee, le 14 juillet au cinéma. Un film France Inter.
13h et presque 13h30 sur France Inter.
France Inter. Le 13-14.
Marion Loup.
Une maison d'arrêt occupée à 186%, 3 mètres carrés pour vivre. Des détenus forcés de dormir sur le sol, des cellules infestées de rats et de cafards, des murs moisis, un climat de violence. C'est le tableau très sombre de la situation à la maison d'arrêt de Toulouse-Seyssinet en Haute-Garonne. Et celle qui lance l'alerte, c'est elle, la contrôleuse générale des prisons, des lieux de privation de liberté, qui est avec nous aujourd'hui. Vos questions à Dominique Simoneau, 01 45 24 7000 et sur l'appli France Inter. Bonjour Dominique Simoneau.
Bonjour.
Qu'est-ce qui se passe à cette maison d'arrêt de Toulouse-Seyssinet ?
À la vérité, il se passe ce qui se passe dans d'autres maisons d'arrêt. La vérité, c'est qu'elle est surpeuplée, comme vous l'avez dit, à 186%. Et je dois vous dire que pour la première fois, moi, j'ai été journaliste judiciaire, j'ai beaucoup écrit sur les prisons et j'avais l'habitude d'écrire, ils s'entassent à 3 dans 9 mètres carrés, puis on m'a ouvert la porte d'une cellule. Et en fait, ils s'entassent à 3 dans 4,20 mètres carrés. Parce qu'il faut enlever l'emprise des lits superposés, de la table, des toilettes, du coin douche. Et ces gens, en temps de Covid, en temps de pandémie, avec les activités restreintes en prison, ils sont confinés 22 heures sur 24 en cellule à 3. Je ne sais pas qui de nous supporterait ça. Il y a des cellules où ils ont 1,2 mètre carré par personne pour vivre. 22 heures, on deviendrait fou. Je vous parle pas des surveillants qui, eux, quand la prison s'est ouverte en 2003, avaient été 1 pour 50 détenus et aujourd'hui 1 pour 136 détenus. Voire 100, c'est inhumain d'imposer ça à... Je sais pas comment on peut vivre là-dedans. Alors évidemment, ça génère de la violence. Évidemment, on peut pas nettoyer. Si vous voulez, on est arrivé dans la cour de promenade... qu'est-ce que je vois des toilettes, mais c'était absolument immonde.
Il y a des photos dans votre rapport aussi, voilà. On voit les toilettes jonchées de détritus.
C'est affect, enfin, on me prétend que c'est nettoyé de la veille. Bon, n'importe qui en fait le ménage une fois dans sa vie, c'est que non, parce que je sais. À la fin, je pense que la direction, les surveillants sont dépassés, tellement découragés, tellement c'est effrayant, et les magistrats devraient réaliser qu'on ne peut pas envoyer tant de monde en prison sans réfléchir qu'il y a des alternatives et sans réfléchir à l'ambiance que ça peut mettre dans la prison, aux conséquences que ça a. Et d'autant plus que la loi n'est même pas respectée, puisque aujourd'hui une loi dit que les peines de moins de 6 mois de prison doivent être effectuées en alternative, en aménagement de peine, c'est-à-dire surveillées par les services pénitentiaires d'insertion et de probation. Et à Toulouse-Seyssinet, la moyenne des peines est de 4,5 mois. Donc ça va pas du tout.
Alors il y a déjà eu plusieurs réponses à votre rapport aujourd'hui. Notamment, on a entendu sur France Inter ce matin le syndicat UNSA qui dit l'état de la prison et notamment son état de saleté et les violences qui s'y déroulent, c'est en partie la faute des détenus et non de l'État. Qu'est-ce que vous pensez de cette réaction ?
On peut voir les choses comme on veut. Il dit c'est la faute des détenus. Les détenus, on n'a qu'à plus les faire travailler à nettoyer la prison, on les prendre comme auxiliaires à nettoyer la prison. Et là, c'est quand même pas de la faute des détenus s'ils sont entassés comme ça. Il y a des gens dont les toilettes étaient bouchées. Je vais vous demander si ça c'est la faute des détenus. Les toilettes sont bouchées, ça reste bouché des semaines. Ils ont été obligés de faire leurs besoins à 3 dans la cellule, dans un seau qui devait vider. Est-ce que ça, c'est de la faute des détenus ? Est-ce que c'est de la faute des détenus si les détenus, parce qu'il y a 200 matelas au sol à Toulouse, sont obligés de s'enrouler la nuit dans leurs draps et de mettre du papier toilette dans leurs oreilles pour pas que les cafards rentrent dedans ou leur courent sur le corps ? Est-ce que c'est la faute des détenus ? On n'accuse pas les surveillants de l'état de la prison. Je vois pas pourquoi. Je vois pas les détenus. Moi, je serais eux. J'adopterais un autre. Angle d'attaque sur nos conclusions.
Vous avez eu aussi une réponse du gouvernement, de la part du garde des Sceaux, qui a rédigé une longue lettre. Alors, je ne vais pas vous lire l'intégralité de la lettre, mais ce qu'il vous dit, c'est que des efforts ont été faits pour réduire la surpopulation. Il y a eu des détenus qui ont été transférés. Il y a des travaux en cours. On repose des portes battantes parce qu'il n'y avait plus de portes battantes. Il y a des campagnes de lutte contre les nuisibles, etc. etc. Ça vous suffit ?
Mais pas du tout. On en sort de cette prison. J'y étais moi-même et on y était en juin. Donc, je ne pense pas que ça suffise. Si maintenant on nous dit qu'on remet des portes battantes aux toilettes qui manquent, parce que faut. Je crois que ça parle à chacun, ça, et à chacune d'entre nous, être obligé de faire tout ça devant les autres.
D'aller aux toilettes devant les autres.
Oui, d'aller aux toilettes devant les autres. Il y a un monsieur qui nous a écrit, là, il dit « Moi, je suis très malade en ce moment. » Il attend que ses co-détenus aillent en promenade pour aller aux toilettes. Mais ça vient pas toujours. Et maintenant, il a des problèmes énormes intestinaux. Mmh. C'est quand même, vous savez, des conditions inhumaines. Il y a quelqu'un à Seyss qui a attrapé la leptospirose, un détenu. Mmh.
Donc une maladie qui est liée aux rongeurs et aux rats.
C'est voilà. La maladie de la pisse du rat. Mmh. Donc, est-ce que c'est de la faute des détenus franchement, je ne comprends pas ce que veut dire l'UNSA. Mais bon.
On a Marc, qui sur ces questions des conditions de détention, on a Marc qui est au standard, qui nous a appelé de l'Ardèche. Bonjour Marc.
Oui, bonjour. Je vous remercie d'abord pour vos émissions. J'ai été détenu pendant 80 jours suite à une suspension de sursis de 4 mois. Donc moi, j'ai fait une courte peine à la maison d'arrêt de Nevers, qui date de 1857, je crois, la création de cette maison d'arrêt. Cette maison d'arrêt a du simple vitrage, cette maison d'arrêt n'est pas isolée. Cette maison d'arrêt a des douches vétustes, a des toilettes qui ne ferment pas, donc il n'y a même pas de porte battante. Donc quand vous faites vos besoins, comme disait la rapportrice, vous êtes en cellule, et puis bah, si vous avez besoin le matin et que vous n'êtes pas sorti et qu'il y a du monde, bah, vous faites ça en compagnie des autres, avec les bruits et les odeurs que ça comporte. Chacun son tour, on va dire. Moi, j'ai pas eu personnellement, mais j'ai eu le cas d'autres détenus qui me disaient qu'ils avaient vu des rats remonter par les canalisations des toilettes. Je voulais dire aussi que les gardiens de prison, les matons, moi j'ai un très bon ami qui est maton dans une prison à Toulon, et lui-même me disait que les conditions s'étaient dégradées d'année en année. Il a 50 ans passé, hein. Donc lui, il est en fin de carrière. Et je voulais dire que nous avons des conditions de détention qui sont déplorables, mais les personnels pénitentiaires qui travaillent dans cet univers-là ont eux aussi des conditions déplorables de travail. Parce que si nous, on avait chaud en été, moi je l'ai fait en été, hein, mon incarcération. Donc quand il faisait 35 degrés ou 40 degrés dehors, le soir vous vous couchiez, il faisait 30 degrés, vous étiez moite. On avait le droit à 2 douches par semaine de mémoire. Je crois le mardi, le vendredi, ou enfin je m'en rappelle plus trop, hein. Excusez-moi, c'était en 2015. Et on avait le droit à des douches extérieures, mais avec quasiment aucune intimité, avec de l'eau froide. Donc en plein été, c'est pas grave. Maintenant, en hiver, vous n'allez pas vous doucher dans la Nièvre, dehors, si vous avez le droit qu'à 2 douches par semaine. Donc question, si vous voulez, question hygiène, c'est pas la faute aux détenus. Je voudrais quand même rappeler qu'on est le pays des droits de l'homme, qu'on fait la morale au reste de la planète, et qu'on n'est pas foutu d'avoir des systèmes carcéraux corrects. Parce que moi, j'ai vu des gens récidiver. Et s'il y a une récidive, c'est que derrière, il n'y a pas de réinsertion. Moi, personnellement, j'aurais dû avoir un bracelet. C'était suite à un différend familial. Et j'aurais dû être en prison. Attendez, laissez-moi juste finir une dernière chose. Le SPIP m'a dit que c'était pas possible que j'aurais le droit au bracelet. Mais comme c'était la période, je suis rentré fin juin. Et entre juillet et août, il ne se passe plus rien comme décision judiciaire. Et moi, je suis sorti fin août.
Marc, on va peut-être demander à la contrôleure générale des lieux de privation de liberté ce qu'elle pense de votre témoignage. Vous le disiez tout à l'heure, en fait, la situation de Toulouse, elle est assez générale. En tout cas, elle est très répandue dans plusieurs établissements pénitentiaires. Qu'est-ce qu'on fait ?
Bien justement, si vous voulez, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire monsieur, et pour partie, en tout cas, oui, complètement d'ailleurs. Mais je trouve que je me demande qu'est-ce qu'on est devenus, nous tous, les Français, pour supporter, pour nous être habitués à ça. Et franchement, c'est un truc qui me taraude et m'interroge. Je me dis, notre ancien métier, journaliste, mon ancien métier, journaliste, le vôtre maintenant,
toujours actuel métier.
Les citoyens, les magistrats, les gouvernants, tout le monde. Mais qu'est-ce qu'on est devenu ? Qu'est-ce qui s'est passé en nous pour qu'on néglige comme ça, qu'on laisse faire, qu'on s'habitue ?
Mais est-ce qu'on fait des choses ? Parce qu'effectivement, comme je le disais tout à l'heure, le garde des Sceaux a répondu à votre rapport et il dit que des choses sont faites. Donc, d'après vous qui avez, je ne sais pas combien vous visitez de prisons et d'établissements pénitentiaires par mois, mais vous en avez vu quelques-uns déjà.
Oui.
Est-ce que des choses sont faites pour régler cette situation ?
Je n'en sais rien. Écoutez, on sort de cette prison, c'était à la mi-juin. Bon, j'apprends que des choses sont faites. Que n'ont-elles été faites avant ? Et si elles sont faites, on ira voir ce qui est fait. Ce qui est sûr, c'est qu'on s'est laissé tous empoisonné lentement par le fait que ça nous paraît maintenant tout à fait normal qu'il y ait 2 à 3 personnes dans un si petit espace. Je ne pense pas que ce soit favorable à la réinsertion. Je pense que les petites peines sont inutiles, comme le dit la dernière loi qui apparemment est très mal appliquée à Seyss, et que parce que tout vaut mieux que, c'est ce que disait d'ailleurs l'auditeur, tout vaut mieux qu'une sortie sèche, c'est-à-dire non accompagnée. Et, or, les petites peines ne laissent pas le temps d'aménager les peines et d'être accompagnées par les services de probation et d'insertion. C'est très dommage, c'est un gâchis.
Sur la question peut-être des peines alternatives qui permettraient peut-être d'éviter, en tout cas de limiter ce genre de problème, on a une question de Gérard à Nice. Bonjour Gérard.
Bonjour, merci de m'accueillir. Bonjour Madame Dominique Simoneau. Qu'en est-il de l'application du bracelet électronique qui avait été mis en place justement pour soulager de trop nombreuses incarcérations? Et avez-vous prévu de faire visiter les prisons aux magistrats? Est-ce qu'il y a eu un changement? Apparemment non, avec un ministre de la justice, ancien avocat. Merci pour tout.
La réponse de Dominique Simoneau.
Bonjour monsieur. C'est pas à moi de faire visiter la prison aux magistrats, mais c'est vrai que je les incite fortement à y aller plus qu'ils n'y vont, parce qu'ils y vont trop rarement. Or, je trouve quand même que la moindre des choses, quand on envoie des gens dans un endroit, c'est d'aller voir ce qui s'y passe. Je trouve ça très regrettable. Alors, ils disent qu'ils n'ont pas le temps. Moi, je pense qu'ils pourraient distraire peut-être une journée par an de leur temps pour y aller. Et quant au bracelet électronique, il se trouve qu'à Seyss, il est très, très peu usité. Les raisons en sont que, je ne sais pas, que il paraît que le public n'est pas adapté. Enfin, j'en sais rien. De toute façon, voilà. Alors qu'ailleurs, il est très, très...
Très utilisé, dans d'autres établissements. Est-ce que dans ce contexte d'épidémie de Covid, évidemment la surpopulation est un problème. D'ailleurs, au départ, l'épidémie a permis de réduire le nombre... On est même descendu en dessous des 100%, c'était la première fois depuis longtemps, d'occupation des prisons, parce qu'on a fait partir des gens un petit peu plus tôt que la fin officielle de leur peine. Là, c'est fini. On est de nouveau dans des taux d'occupation...
J'en suis vraiment un peu malade, parce que... J'ai écrit au garde des Sceaux, à peu près dès que je suis arrivée, en me disant, mais reprenez des ordonnances comme au printemps, regardez, tout l'opinion publique a compris qu'en ces temps de pandémie, on ne pouvait pas laisser les gens dans un tel état de confinement, ni le personnel, ni les détenus. Malheureusement, il n'a pas voulu reprendre les ordonnances de printemps qui ont permis des libérations. Et aujourd'hui, alors qu'on était tombé à 58 800 détenus, on est remonté à 67 000. On va tout doucement, mais très sûrement à 1000 de plus par mois, retrouver les niveaux d'avant les ordonnances de Nicole Belloubet. C'est regrettable. Je pense que c'est beaucoup dû à la campagne électorale qui commence et l'ambiance un peu sécuritaire qui se déroule, qui fait que personne n'ose prendre de mesures qui pourraient sembler laxistes, alors que c'est le contraire. Car je rappelle que la peine de prison n'est pas la panacée et que les peines alternatives, elles permettent justement beaucoup mieux de réinsérer les gens, de les remettre dans la société.
Rapidement peut-être, votre appel à la vaccination prioritaire des détenus, il a été entendu ou pas ?
Pas du tout. Mais enfin, les détenus et le personnel. Le personnel a été vacciné. Moi, j'avais appelé à ce qu'on vaccine très vite, aussitôt, et le personnel et les détenus. Et puis, maintenant, ça suit le cours, ça s'accélère un peu, mais ça suit le cours de la population normale.
Une question de Claude à Paris. Les détenus peuvent-ils porter plainte au niveau européen contre la France ?
Tout à fait, mais ils doivent commencer par déposer plainte auprès des tribunaux français, que ce soit un tribunal administratif. Et maintenant, il va y avoir des recours permis devant le juge judiciaire pour des conditions indignes. Et c'est seulement quand tous ces recours seront épuisés qu'ils iront devant la CEDH. On a été condamné en 2020 2 fois par la CEDH pour la même personne.
Il y a effectivement une loi du Sénat qui permet aux détenus d'avoir des recours pour conditions indignes. Une dernière question peut-être un peu plus personnelle, une question de Dominique. Que ressentez-vous alors que vous êtes la contrôleure des prisons, que votre parole ne soit pas toujours appliquée et respectée?
Je me dis que je ne me décourage pas, que ce qui compte c'est la ténacité et que je le répéterai autant de fois qu'il le faudra et que j'alerterai mes anciens confrères, mes anciennes consoeurs, les citoyens, je les prendrai à témoin de ce... Voilà.
Merci beaucoup.
Mais je lâcherai pas.
Merci beaucoup Dominique Simoneau, contrôleur général des lieux de privation de liberté. Merci d'être venu sur France Inter. Le détail de votre rapport est à retrouver sur notre site franceinter.fr.
France Inter. Le 13-14.
Il est 13h45 à suivre sur Inter, une semaine dans la vie de la brigade fluviale à Paris, présentation du matériel et des 13 bateaux utilisés en intervention. Il surfe, lui, sur la météo du festival de Cannes. Bonjour Laurent Delmas.
Bonjour Marion, aujourd'hui un dépluchant en très grande forme, un cinéaste russe absent de Cannes mais qui secoue la croisette et une bande-annonce tout en délicatesse.
On vous retrouve juste avant 14h, mais tout de suite c'est une chanson. Bonjour Frédéric Pommier.
Bonjour Marion.
À votre micro, aujourd'hui la comédienne Corinne Touzé que l'on va voir jusqu'à la fin du mois au Festival d'Avignon dans Juste une embellie.
C'est au Théâtre des Gémeaux, une pièce de l'anglais David Hare, rencontre entre deux femmes qui ont aimé le même homme. Et c'est d'un homme qu'elle a énormément aimé que Corinne Touzé a choisi de me parler, mort il y a 20 ans. Il s'agit de Gilbert Bécaud.
Bécaud, c'est toute une histoire et j'aurai pas le temps de tout vous raconter en si peu de minutes. Dans ma préadolescence, ça a été un choc. D'abord, sa voix. Cette voix qui sortait là, ce coffre comme ça qu'il avait. Ensuite, je pense que c'était profondément un acteur, c'est-à-dire que toutes ses chansons, il les interprétait comme s'il allait mourir à la fin. C'était un véritable interprète. C'est pas quelqu'un qui était derrière son micro, debout, sans bouger. Il cavalait d'un endroit à l'autre, il sautait sur son piano. Il occupait tout l'espace. Même sur les plateaux télé, il était monumental, quoi.
Gilbert Bécaud, mesdames, messieurs. Bonne année!
Donc je suis allée le voir plein de fois, j'ai emmerdé mes parents qui m'ont emmené à l'Olympia. J'ai attendu sous la pluie pour avoir un autographe. Après j'ai fait des pieds et des mains pour rentrer dans sa loge et j'y suis arrivée. Et il m'a dédicacé, j'ai un vinyle qui m'a dédicacé, puis je lui ai écrit. Enfin, c'était fou quoi, j'étais gamine. Et alors moi, Bécaud me manque beaucoup. Et je trouve que il a su tout le temps trouver la bonne musique avec le bon texte. Et il a écrit des textes qui touchaient tout le monde.
À chaque enfant qui naît, le monde recommence. Le monde recommence. Recommence avec lui. Et cet enfant qui vint du ventre de sa mère, ventre de la terre, elle aura bien du souci. Pousse ta charrette, va, courbe le dos, mais lève la tête. Et plus la montagne est haute, plus c'est beau.
C'est une chanson sortie en 1980, Frédéric.
Sur l'album « Moi, je veux chanter », premier titre de la phase B, à chaque enfant qui naît, et chaque fois qu'elle l'entend, Corinne Touzé ne peut s'empêcher de penser à ses propres enfants.
Cette chanson, quand on est maman ou papa, elle vous retourne. Ça parle de la transmission, de cette vie que l'on donne et que l'on est obligé de laisser filer, de laisser partir pour que les enfants de leurs propres ailes puissent trouver leur voie, leur itinéraire, leur indépendance. Donc cette chanson, elle est belle parce qu'elle parle de la vie. Elle parle aussi de la vie que les enfants vont donner eux-mêmes. Il y a un couplet que j'aime beaucoup qui est « Ils laissent les parents accumuler les traites, cotiser la retraite, survivre dignement. Et lui se rend léger comme un oiseau à voile qui monte jusqu'aux étoiles pour n'en plus retomber. » Ça, c'est le passage de Flambeau. Hey,
de mille métiers, en mille misères, et d'herbes douces, en arc-en-ciel, il devient presque temporaire.
Donc la chanson, elle parle aussi de la séparation.
Elle parle du départ. Il y a des moments quand on regarde ses enfants, on se dit, je ne les ai pas vus grandir. On aimerait tous les garder dans nos jupes, mais ce ne serait pas très sain.
Vos enfants, ils sont grands.
Ils volent de leurs propres ailes et... Ils me manquent beaucoup parce qu'ils sont à l'étranger, mais cordon est coupé et je suis fière d'eux. J'arrête pas de leur dire. J'aurais pas pu faire ma vie sans enfants. J'aurais pas pu être heureuse sans enfants. Pousse ta charrette, va. courbe le dos, mais lève la tête. Et plus la montagne est haute, plus c'est beau. C'est incroyable, hein ? C'est un poème, quoi. Et ça donne envie d'aller en haut de cette montagne, pour voir comme c'est beau. Non ?
Est-ce que ça donne envie de faire des enfants ?
Oui, ça donne envie de faire des enfants, bien sûr.
Du ventre de sa mère, au ventre de la terre, il vivra comme lui. Et la boucle est bouclée.
À chaque enfant qui naît, Gilbert Bécaud, c'était donc le choix de Corinne Touzet, Frédéric.
Actrice et productrice qu'on retrouve sur scène avec Raphaëline Goupillot dans la pièce Juste une embellie, Théâtre des Gémeaux à Avignon jusqu'à la fin juillet.
Et vous, vous restez avec nous jusqu'à la fin de la semaine. Merci, à demain Frédéric. À 13h50 sur France Inter, un feuilleton au fil de l'eau cette semaine. Une semaine dans la vie de la brigade fluviale de Paris, ces policiers qui patrouillent sur la Seine et ses canaux. Aujourd'hui, ils nous présentent leur matériel et notamment leur flotte. Reportage d'Ariane Grissel avec les moyens techniques de Sandrine Malon.
Voilà, on arrive un peu plus sur le vif du sujet. On est vraiment proche des embarcations. Alors la brigade fluviale, c'est 13 embarcations. Un gros bateau qu'on appelle le remorqueur, qui est unique sur le bief parisien, qui est équipé d'une grue, donc qui nous permet de sortir notamment des véhicules de l'eau. Et derrière, on a 12 embarcations rigides ou semi-rigides, qui sont en général nos bateaux d'intervention.
Donc ça veut dire que là, si, admettons, quelqu'un tombe à l'eau, ouais, vous êtes prêt à partir directement ?
H24. Les plongeurs qui sont équipés en policiers, en quelques minutes, sautent dans le bateau, se déshabillent, s'équipent en plongeur et sont amenés à plonger en quelques minutes. Maintenant, on va se diriger vers l'atelier mécanique. On va voir Stéphane, le chef d'atelier. Là, ils sont en train de faire tremper des combinaisons.
Ah, alors, oui, dans l'eau claire.
Alors, c'est pas de l'eau claire, hein, c'est de l'eau avec un savant produit, donc pour désinfecter les combinaisons. Voilà, donc là, nous rentrons dans l'antre de l'atelier mécanique. Avec Stéphane, le chef.
Bonjour. Qu'est-ce qui provoque souvent les problèmes sur les bateaux ?
C'est l'utilisation, hein. Ça c'est des bateaux qui sont voués au secours, donc c'est des départs rapides. Le moteur n'a pas le temps de chauffer, donc il y a beaucoup de casse. Sinon l'entretien est fait dans les règles de l'art, c'est un bateau de secours, donc on ne peut pas négliger ça. Voilà.
Vous, à l'origine, vous êtes mécanicien ou policier ? Comment vous en êtes arrivé là ?
Je suis policier avant tout et j'ai une formation de mécanicien productique. En fait, ça n'a rien à voir avec la mécanique de voiture ou autre, ou bateau. Ça, c'est une passion. Donc, quand on aime, on apprend vite. Sinon, je faisais de l'usinage de pièces.
Donc là, vous êtes dans un cadre particulier quand même.
Tout à fait, mais que j'aime. Voilà.
Stéphane, c'est qu'avant d'être se retrouver à l'atelier, il a été en brigade nautique, donc il connaît le travail de policier sur le fleuve. Vous étiez même plongeur. Et donc voilà, il a fait quelques années en brigade avant d'intégrer cet atelier. C'est à mon avis pour cette raison-là aussi qu'il connaît bien la bobologie de nos moteurs et de nos bateaux.
Vous pouvez regarder si on a un bateau.
Allez, on est parti. Est-ce que vous êtes frileuse ?
Il fait frais sur l'eau.
Ouais. Alors, l'idée, ça c'est pour la tête,
okay.
Hop, on bras comme ça,
bras là,
voilà.
Ouais.
Donc ça, c'est si jamais vous tombez à l'eau, comme ça, on vous rattrape.
Ah, merci.
C'est bon.
Alors, tenez-vous. Voilà, c'est mieux quand on tient. Il y a une autre fonction qui est la vôtre, c'est celle de maraude.
Alors en période de crue, bien sûr, l'urgence, c'est les sans-domicile fixe. Il y en a beaucoup sur les bords de Seine, que les unités spécialisées, il y a la BAPSA qui existe, ne voient pas forcément, donc on travaille étroitement avec eux. On a établi une cartographie ensemble pour ce que nous, on voit en fluvial, ils puissent le résoudre d'un point de vue terrestre. L'approche est parfois compliquée et des sans-domicile fixes sont parfois très bien installés. Et sur la dernière crue, qui n'était pas une grosse crue, eh bien on a évacué des sans-domicile fixes, les chiens, les chats, un petit peu tout le monde. Voilà, ça fait partie aussi de nos missions, de nous assurer que les gens sont en sécurité. En tout cas, quand il y a un danger, on leur demande, on les évacue, on les fait prendre en charge.
Une semaine dans la vie de la brigade fluviale à Paris, feuilleton d'Ariane Grissel avec Sandrine Malon, Juliette Gou à la réalisation. Demain, quand les policiers de la brigade fluviale jouent les experts.
France Inter, le 13-14.
À la recherche du beau temps perdu, direction le Festival de Cannes avec notre monsieur cinéma, Laurent Delmas. Laurent, quel temps fait-il aujourd'hui sur la Croisette ?
Ben Marion, j'ai un peu honte de vous le dire, hein, mais on va tutoyer ici les 30 degrés dans l'après-midi. Allez, passons. D'accord. Mais enfin, ceci dit, oui, c'est également un double coup de chaud hein, pour le festival lui-même, parce que on va d'abord parler de Tromperie, le nouveau film d'Arnaud Desplechin et son casting plus que parfait, Léa Seydoux, Emmanuel Devos, Anouk Grimbert, et face à ce trio féminin de choc, un Denis Podalydès en très grande forme pour son retour dans l'univers du cinéaste. En adaptant un roman de Philippe Roth, Desplechin concrétise un projet entamé avec la préparation de « Comment je me suis disputé ma vie sexuelle » il y a plus de 20 ans donc. Denis Podalydès incarne Philippe, un écrivain américain exilé à Londres que sa maîtresse, jouée par Léa Seydoux, vient régulièrement rejoindre dans son bureau. Les joutes physiques succèdent aux joutes verbales. Les deux amants se livrent à un véritable festin de paroles où se croisent les conversations les plus intimes comme les plus sensibles. Hein. Depuis la littérature jusqu'à l'antisémitisme en passant par le sexe ou la fidélité à soi-même, il n'y a pas de sujet tabou. Ce qui pourrait n'être qu'une énième variation boulevardière sur le thème de l'adultère devient ici la mise à plat brillante de la vie d'un homme aux multiples masques et aux faux-semblants non moins multiples. Le bureau de cet écrivain lui tout seul est le théâtre de son existence et Desplechin déploie des trésors de mise en scène pour y faire vivre ses dialogues. Et la tromperie du titre doit s'entendre aussi évidemment à propos de l'art en général et du cinéma en particulier. Le cinéaste prend un malin plaisir à jouer avec l'illusion du cinéma proprement dit. Le tout passe par un quatuor d'acteurs, je le disais, époustouflant. Le film n'étant pas, hélas, en compétition, il ne menace personne dans la course à la palme et au prix d'interprétation. Alors il faudra attendre le 8 décembre prochain pour sa sortie en salle. Patience donc, mais croyez-moi Marion, elle sera récompensée.
Et ben on attendra. Le film russe La fièvre de Petrov, lui en revanche, vise la Palme d'Or.
Et oui, c'est le nouveau film du cinéaste russe Kirill Serebrennikov qui avait enchanté Cannes en 2018 avec Leto, un film très musical et très nostalgique. Cette fois, il revient avec La fièvre de Petrov qui a secoué les festivaliers par son propos acide sur la Russie d'aujourd'hui, servi par une mise en scène qui, elle aussi, a la fièvre. Résultat, un véritable brûlot contre une société décrite comme ultra-violente, antisémite, xénophobe, sans repère et comme livrée à elle-même. Le spectateur est ainsi plongé dans une bouleversante descente aux enfers qui se déroule à la veille d'une nouvelle année, alors que sévit donc une épidémie de grippe. Serebrennikov n'a pas été autorisé à quitter la Russie pour venir à Cannes et présenter ce fascinant cauchemar éveillé. Une violence de plus pour ce film dont l'apothéose finale semble illustrer les beaux mots de Louis Aragon. Je cite, c'était un temps déraisonnable, on avait mis les morts à table. Extrait du poème, est-ce ainsi que les hommes vivent?
Et Laurent, comme tous les jours, on termine en musique. Quelle est l'air de Cannes aujourd'hui?
Eh bien, chaque année, la quinzaine des réalisateurs, oui, nous régale de cette bande-annonce qu'on entend. C'est un merveilleux montage d'images fixes ou pas qui mêlent les films et leurs cinéastes. Olivier Jahan en est l'auteur, le tout sur une élégante musique de Cyril Moisson. On l'apprécie.
Laurent Delmas pour la météo cannoise. On vous retrouve en direct de la Croisette demain, Laurent. Il est 13h59 sur Inter. Dans quelques instants, ceux qui l'aiment prendront le train. L'histoire ne dit pas si c'est avec un pass sanitaire ou non. Rediffusion de l'émission Grand bien vous fasse d'Ali Rebéi consacrée au plaisir de voyager sur des rails.